Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganame avec vous pour une heure de programme en français ce dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale en France, Pasty Day. Pour commencer, entretien avec Anissa Atia du comité d'organisation du Pasty Day Festival à Melbourne.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Anissa Atia, qui est membre du comité du festival de Pasty Day 2024, célébré à Melbourne dans le Victoria. Bonjour et bienvenue chez nous.
Bonjour Jean-Noël, merci de me recevoir.
Dimanche 14, c'est au même endroit que l'année dernière, au Victoria Market.
Oui, c'est exactement ça. On va célébrer la fête nationale avec des crêpes, du fromage, du vin chaud, plein de festivités. En fait, c'est important de mentionner que c'est un festival qui est créé par la communauté française, pour la communauté française, mais aussi les amoureux de la culture française.
Les francophiles.
Exactement. Voilà, on va vous transporter dans un village français hivernal avec plein d'activités. Donc on a le marché d'hiver, comme vous avez dit, au Victoria Market. Donc on sera au shed C et D, comme l'année dernière. Vous allez pouvoir découvrir des commerces franco-australiens, de la cuisine française, bien sûr, plein d'artistes. On a un programme culturel avec des conférences, des visites guidées, des masterclass. Le festival est aussi adapté aux enfants et en plus c'est pendant les vacances scolaires.
Emmener les gosses parce que c'est bien abrité, même s'il pleut.
Exactement. On a aussi, bien sûr, plein de stands. Hein. On va se régaler avec des crêpes, des croissants, pâtisseries, vin chaud, fromage et plus encore. On a plein d'artistes cette année, comme tous les ans. On a notre walking tour qui est en anglais. Donc c'est sur les French Icon of Melbourne.
Faites le tour de la ville.
Oui, c'est ça. On fait le tour de la ville. Voilà, c'est un tour guidé en anglais. Et les masterclass, bien sûr. Donc on en a 5 cette année.
Je vois qu'il y a aussi des programmes en ligne.
Oui, exactement. Donc si vous ne pouvez pas nous joindre en personne, vous pouvez participer à des conversations en ligne ou même tester vos connaissances avec un trivia français avec plein de lots à gagner pour les gagnants.
Et autre message que vous aimeriez signaler, Anissa ?
Oui, alors évidemment, on invite les gens à venir nombreux nous voir au marché. Il y aura plein d'activités, il y aura bien sûr beaucoup de nourriture française, beaucoup de musique et des animations. Et moi, je serai beaucoup derrière le bar à servir du champagne, du vin chaud, du vin. On aura de l'orangina aussi cette année pour ceux qui adorent ça et qui manquent d'orangina ici. Et voilà.
Et je sais que l'année dernière, ça a très bien marché parce que vous étiez bien abrité.
Oui, ça change vraiment cette location avec Market. C'est que, il fait froid, même s'il pleut, on est bien abrité et il fait chaud parce qu'on est sous les sheds C et D du Victoria Market.
Et beaucoup de musique pour divertir les gens qui viendront vous rendre visite.
Exactement, oui.
Un rappel du site internet pour que les gens puissent consulter avant de venir au Victoria Market ?
Bah oui, bien sûr, c'est www.bastidaymelbourne.com.
Anissa Atia, merci d'être venue nous rendre visite.
Merci Jean-Noël, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issus des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Ça, c'est vraiment toi. C'est une chanson du groupe Téléphone. Et ceci nous amène à une autre pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, on continue avec une note des sports, avec notamment la bourse aux joueurs de la NBA. Et oui, c'était Kalani Bani du chanteur aborigène Mitch Tambo. Je vous propose cette chanson pour signaler qu'aujourd'hui c'est le 14 juillet, donc jour de la fête nationale en France, mais c'est aussi le dernier jour de Nidoc Week. Nidoc Week, c'est la plus grande semaine dans le calendrier culturel aborigène. Les aborigènes, en fait, appellent Nidoc Week Blackfella Christmas. Une semaine de célébration de la culture et de l'histoire aborigène. Et ceci nous amène à notre note de sport, focus sur le basket, sur la draft, la bourse aux joueurs de l'intersaison. L'année dernière, c'était évidemment l'arrivée de la petite française Victor Wembanyama qui avait créé l'événement. La vedette prépare actuellement les JO à la maison avec les Bleus. Un extrait de Mondial Sport de RFI avec Hugo Moissonnier qui est avec Malik Daou, Charles Toudin ainsi que le Wemby reporter Théo Quintard.
With the first pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Zachary Risache from Lyon, France, and Francis J.L. Boron-Bresse.
Zachary Risache, le fils de Stéphane, qui est donc drafté numéro 1 en 2024 par ses Atlanta Hawks. Il succède à Victor Wembanyama, l'ailier, qui est donc notre deuxième Français dans l'histoire de la NBA à être drafté. Numéro 1, c'est magnifique.
Je suis super content d'être ici. J'ai hâte de pouvoir m'installer ici, de retrouver mes routines, etc. Donc j'ai vraiment le sentiment que tout est conçu pour progresser et pour gagner. Donc c'est incroyable. Comme tu as dit, les étoiles plein dans les yeux, c'est une bonne image pour décrire ce que je ressens. C'est un accomplissement d'avoir pu rendre ma famille fière.
Je peux pas renier mon fiston. Bah, beaucoup de fierté, une immense fierté. Ouais, beaucoup d'émotions. On a un peu perdu pied aussi parce que un tsunami d'émotions qui arrive comme ça. Je me souviens juste d'avoir entendu le Z de Zachary, puis c'est un peu un blackout émotionnel. Depuis, à chaque fois que je dors quelques heures, je me réveille et puis je me dis putain, mais c'est bien ça qui s'est passé en fait. Chaque fois que je me réveille, je dois d'abord me remettre dans le truc de me dire qu'effectivement c'est arrivé.
On a pris vraiment conscience de ce qui allait se passer 5 minutes avant. Et au moment où le commissionnaire il nous dit Atlanta a maintenant 5 minutes pour choisir son choix, son agent me dit retourne-toi. Et je me retourne et là il y a une vingtaine de photographes, de caméras qui sont figés sur lui. Je regarde son agent et je lui dis mais toi t'es au courant? Et il me répond pas. Et je me dis mince, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un piège, c'est pas possible. Et effectivement 5 minutes après, son nom a été appelé, c'était incroyable.
Quand les Hawks ont fait le pic, je ne dirais pas que tout le monde était hyper content. Je crois un peu plus modéré. Beaucoup de gens voulaient, je ne sais pas, on a parlé beaucoup d'Alex Sarr. Surtout Alex Sarr, je crois que beaucoup de gens voyaient lui comme le meilleur joueur. Mais moi, perso, quand j'ai vu Risache, je me suis dit, ok, d'accord, là, je vois Rizaché comme un très bon défenseur.
Il est pro. Il sait exactement quels sont les codes de l'entraînement, du professionnalisme. Et d'un autre côté, il est tellement jeune et tellement perfectible que ça laisse entrevoir des choses incroyables. Il a une marge de progression énorme. Je pense qu'il a eu l'intelligence de prendre des meilleurs. Cette capacité à jouer sur tout terrain qu'a Kevin Durant, il a pris un peu cette capacité de tourner sur le tir extérieur d'un Ray Allen, d'un Klay Thompson. Il a ce côté défensif qui est unique pour un si bel attaquant. Il aime défendre. Donc je trouve que c'est difficile de le comparer à un joueur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il me semble être la photographie du joueur moderne.
Zachary Rizaché, nouvelle sensation en NBA. Il a d'abord obligé Adam Silver, le boss de la NBA, à prononcer Bourg-en-Bresse avec son accent américain. C'est peut-être un accomplissement qui ne sera jamais égalé ni même dépassé. Rizaché a surtout fait la fierté de son père Stéphane, qu'on a entendu, ancien basketteur. La fierté aussi de son coach personnel Anthony Brossard, qui a vu les projecteurs s'allumer sur son poulain avant l'annonce, qui décrit Zachary, on l'a entendu, comme l'archétype du joueur moderne. Réaction un peu plus froide, nuancée, d'un fan des Hawks d'Atlanta, la nouvelle écurie de Rizaché. Tous ces gens au micro de Théo Quintard. Théo, justement, vous êtes avec nous dans Mondial Sport avec Malik Daou et Charles Todin. Présentez-nous la nouvelle sensation française au pays de l'oncle Sam, peut-être le successeur de Wembanyama. Voilà, il y a eu Wembanyama et Théo Quintard l'an passé en NBA. Maintenant, place à Rizaché. Il n'est pas tout seul, mais d'abord Rizaché, présentez-le nous.
Alors Rizaché, comme l'a dit Anthony Brossard, c'est un joueur moderne. Voilà, il est capable d'attaquer, de défendre, et on l'a vu aussi. Il a joué à assez haut niveau. Il a joué à Bourg, donc en première division française et en deuxième division européenne. Ils ont été jusqu'en finale de l'Eurocup cette saison. Donc voilà, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur moderne. Maintenant, il faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas un Wembanyama bis. Je pense qu'il n'atteindra jamais ce niveau de performance parce que Wembanyama est inégalable. Mais ça reste un joueur intéressant. Mais voilà, le petit point d'interrogation, c'est où est-ce que vont les Hawks? On ne sait pas trop.
Oui, parce que s'ils ont eu le droit au choix numéro 1, c'est que, un peu comme les Spurs pour Wembanyama l'année dernière, c'est qu'ils ont fait, pardonnez-moi, une saison pourrie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ils terminent 10e, ils font les play-in, ils font pas les play-offs. Ils avaient 3% de chance d'avoir le pick numéro 1. Donc, je pense que c'était pas vraiment prévu au front office des Hawks. Mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs sur est-ce qu'ils vont l'échanger, est-ce qu'ils vont envoyer ce pick-là contre de l'argent, des choix de draft et des joueurs éventuellement aux Spurs ou à une autre franchise. Non, voilà. Donc, Zachary Rizaché évoluera bien à Atlanta ces prochaines années.
C'est une sensation. On a l'impression que c'est une mini sensation. C'est pas du tout la folie Wembanyama, Charles Todin, the free agent, comme l'indique le nom de votre média en ligne. La draft, ça vous intéresse, les free agents, c'est les joueurs libres. Il n'était pas libre, Zachary Rizaché. Il n'est pas le seul Français. Hein. C'est une draft plutôt historique, je crois, pour les Français. On a entendu parler d'un Alexandre Sarr tout à l'heure, qui était même envisagé pour être lui le numéro 1. Il est numéro 2 finalement, je crois, dans cette draft.
Tout à fait. C'est une draft historique pour la France. Quatre joueurs sélectionnés dès le premier tour. Un cinquième, Melvin Aginsa, qui a été sélectionné en 51e position au deuxième tour. Il n'y a que le Canada qui a réussi à faire ça, d'avoir quatre joueurs sélectionnés au premier tour. Le back-to-back, donc les deux fois de suite, premier choix, pareil, il n'y a que le Canada qui l'a fait. C'est une draft historique. Et c'est sûr, il ne faut absolument pas commencer à tirer des comparaisons entre Wembanyama et Rizaché. La hype n'est pas du tout la même. Les deux joueurs sont totalement différents. Pour Rizaché, il va arriver dans une équipe d'Atlanta. Et Théo a raison, on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont. Ils ont gardé leur star. Et ben voilà, évidemment, le trou me prend maintenant.
on a déjà eu beaucoup de noms propres, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, il n'arrive pas dans une équipe. Wembanyama, il n'arrive pas dans la meilleure équipe de la ligue.
Tu parles de Trae Young peut-être?
De Trae Young, voilà.
Ah, bon, Malik Daou est là.
C'était le. Voyez, merci, au rebond. Beaucoup, Malik. De Malik, ils se sont séparés de Dejan Temeré, donc ils lui font un peu de place pour qu'il puisse réussir au maximum sa première année. Est-ce qu'il sera rookie de l'année? Ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir comment il va évoluer, notamment autour de Trae Young.
Théo Quintard, le fait de voir des talents français garnir les rangs des effectifs de la NBA, c'est une tendance qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui va peut-être s'approfondir au fur et à mesure que les saisons vont s'enchaîner. Je dis ça parce que j'ai lu un article sur le site du Monde.fr signé d'un certain Théo Quintard, je ne sais pas s'il y a un lien, et qui expliquait justement qu'il y avait une collaboration de plus en plus étroite entre basket français et basket américain, notamment au niveau de la formation.
Oui, c'est ça. J'écrivais du coup dans le journal Le Monde que la LNB et la NBA, pardon,
voilà. LNB, c'est français. Hein.
Oui, voilà, c'est la Ligue nationale de basket. Voilà, donc la Ligue française et la NBA vont lancer un programme de partenariat un petit peu entre les, comment dire, un programme commun de collaboration en fait pour permettre aux joueurs français de rester dans le championnat de France. Puisqu'en fait, ces dernières années, il y avait une tendance à l'exode, donc c'est-à-dire au départ vers la NCAA, qui est des championnats de basket universitaires nord-américains, vers la NBL, vers l'Australie, ou vers l'Allemagne et notamment Ulm. Et en fait, c'est pour endiguer un peu cette tendance, pour permettre aux joueurs français de rester en France un ou deux ans avant leur draft. Et donc voilà, donc c'est un programme assez inédit. Voilà, il y a plein de, enfin, les contours, il reste quelques détails à finaliser, les contours sont pas, enfin, restent à définir précisément. Mais voilà, c'est un programme qui est intéressant et qui devrait être lancé à la rentrée prochaine.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
C'était Nappe à présent, une courte pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, on va parler de deux établissements basques basés à Sydney, Bouillon l'Entrecôte et Bistro l'Entrecôte.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Je suis avec Johan Gioferran et Vincent Ventura, les deux restaurateurs français derrière l'Entrecôte Group de Sydney. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
On vous avait déjà reçu, donc Johan, dans le programme il y a 5 ans, je crois, pour nous parler de la brasserie L'Entrecôte. Donc d'abord, félicitations. C'est une période assez des fois difficile pour les restaurants, donc vous êtes toujours là. Et puis maintenant, vous avez aussi Bouillon L'Entrecôte et deux frères également à Sydney. Parlez-moi d'abord de vos deux restaurants, Bouillon L'Entrecôte et Brasserie L'Entrecôte.
Bah, merci d'abord de nous recevoir. Et oui, c'est vrai, depuis 5 ans, on a fait pas mal de chemin. On a toujours mis autant de passion dans ce qu'on aime, c'est-à-dire la nourriture et le vin français. Voilà, ce qui nous manquait un peu dans notre vie australienne et qu'on voulait faire partager aussi à la population au Sydney Cider. Et du coup, après notre succès, on va dire, outside of the CBD, on voulait ramener le concept de l'Entrecôte dans la city. Et Bouillon l'Entrecôte est né. On a eu cette opportunité, donc à Circular Quay, d'ouvrir l'Entrecôte numéro 2 un petit peu, qui a eu beaucoup de succès avec le même concept. Le steak frites, les sauces secrètes, les frites maison, la salade au noir. Après, voilà, on fait tous les classiques qu'on peut retrouver, qui nous rappellent la cuisine de nos grands-mères principalement. Donc, on va retrouver des bœufs bourguignons, des canards confits, des soufflés au fromage, un peu de foie gras, saucisson, charcuterie, tous ces classiques. Mais on vous invite à venir tester directement au restaurant. Pour parler après sur l'expansion de l'Entrecôte Group, on a voulu partager aux habitants de Sydney et à tout le monde, parce qu'on a beaucoup de visiteurs du monde entier avec les cruise boats, les touristes qu'il y a par notre location géographique qui est Circular Quay. On a voulu partager et créer quelque chose d'autre, et ça nous a amené à revenir un peu sur notre jeunesse, c'est-à-dire sur sur notre jeunesse française, sur notre jeunesse française, avec l'ouverture d'un bar à, on va dire, tapas pour ceux qui connaissent, mais Pinchos Bar, qui est un bar à tapas basque et qui nous rappelle, nous, un peu nos vacances et un peu là où on a grandi, car on a de la famille de ce côté là-bas. Et donc, deux frères aînés, donc Vincent et moi-même. Nous n'avons pas de frères, mais on est un peu les frères qui se sont connus ici en Australie il y a 10 ans de ça, et qui avons créé et commencé cette aventure ensemble avec l'Entrecôte, avec Brasserie L'Entrecôte en 2016, tout premier. Et voilà, en 2023, deux frères, Pinchos Bar Tapas, étaient nés. Et l'année prochaine, on essaye d'évoluer sur un nouveau projet qui est signé et qui devrait voir le jour d'ici 2025 dans les alentours de Double Bay.
Ah, d'accord, donc je vais vous en reparler. Mais pour d'abord, à deux frères, donc vous disiez que vous avez une connexion assez forte avec le Pays Basque. Pourquoi? Qu'est-ce que vous passez beaucoup de temps là-bas quand vous étiez plus jeune?
Bah, c'est proche de là où nos familles sont. Vincent a grandi du côté de Bordeaux, donc très très proche de la frontière basque. Et c'est, bah, on va dire, on se rapproche un peu de l'Espagne, du soleil, oui, vous devez connaître Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Sébastien. C'est vraiment de grandes villes qui sont connues même mondialement. Donc, autant pour les Français qui vont passer leurs vacances là-bas. Et forcément, vu que c'est à côté de la région, vous retrouvez toutes ces spécialités culinaires, en fait, dans cette partie du sud-ouest de la France. Vous avez ambiance un peu plus intimate. Donc c'est un peu plus petit, ça a pu choquer un petit peu au début parce que c'est un peu étroit, mais justement c'est l'ambiance qu'on recherche, où c'est pas chacun à sa petite table, on est loin derrière l'époque Covid où il fallait 2 mètres entre chaque table. Non, on veut cet espace où justement tout le monde peut parler avec tout le monde, partager une bière avec un pinchot, et bien, ça crée vraiment cette ambiance très très proche et très basque tout simplement.
Et parlez-moi de votre menu. Si je viens chez deux frères, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous me recommandez?
Il va vous dire, mais à mon avis, il va falloir que vous veniez plus d'une fois, tout simplement.
On a un petit pinchos pour commencer, ou un petit gulas. Vous en prenez une petite tortilla de patates faites à la minute. Et on fait des petits lobster rolls sympas. Vous savez, c'est un petit peu que des finger food, donc c'est que des plats à partager.
C'est principalement fait pour... Ça a été fait pour partager...
Et une sangria, bien sûr.
Un petit sangria maison qu'on fait maturer pendant plusieurs jours. Bon, on ne dira pas la recette parce qu'on en a essayé beaucoup dans Sydney. Et bon, je pense que la nôtre est, encore une fois, je ne vais pas dire un niveau supérieur, mais au niveau que nous, on attend. Et voilà. Donc, la qualité s'y retrouve normalement. Et on fait en sorte que, justement, il y a un suivi derrière ça pour garder cette qualité linéaire.
Vous avez un gâteau basque sur le menu. Vous dites the real Basque cake. Pourquoi?
Pour ne pas confondre avec the burnt cheesecake, qu'on peut retrouver un petit peu partout. C'est un des plus vieux desserts, je crois, qui date de plus de 1800, quelque chose, 1860. Et 1830, on n'était pas loin. Donc, dans les années 1830, c'est un gâteau basque. C'est vraiment les origines, donc c'est un peu pour ça qu'on a voulu l'appeler le real, the real gâteau basque, pas le cheesecake basque, donc comme les gens peuvent faire beaucoup sur Sydney. Mais en fait, ce que nous on a appris avec les familles, les grand-mères, etc., c'est que à l'époque il y avait pas beaucoup d'ingrédients. Et les mamies, elles faisaient ce gâteau avec ce qu'il y avait dans la cuisine, c'est-à-dire farine, des œufs, du beurre. Et on a entendu des histoires qui disaient qu'il y avait toujours un peu de rhum qui traînait parce qu'il y avait beaucoup, à l'époque, de contrebande qui venait de l'Espagne. Et il y avait toujours une bouteille de rhum qui traînait dans le placard de mamie et qui rajoutait pour ajouter ce flavor dans le gâteau basque. Donc voilà, c'est un gâteau qui est pas dur à faire, faut juste bien savoir les proportions, et je crois la chose la plus importante, c'est la cuisson, bien évidemment, pas que le gâteau soit trop sec. Mais voilà, c'est tout simple, c'est à base d'œufs, de farine d'amande pour la crème pâtissière, des œufs, du beurre, tout simplement, et beaucoup d'amour.
Et puis vous me dites, donc vous changez les saveurs, la saveur fréquemment aussi, comment vous le faites?
C'est le feeling à l'intérieur. Donc cette semaine c'est à la cerise noire, et la semaine prochaine ça sera la pistache.
Ouais, on essaye de varier pour que les gens aient toujours un peu quelque chose de nouveau. On a beaucoup moins de desserts que de plats salés, parce qu'on essaie de rester dans les traditions. Ça permet aussi aux gens qui viennent assez fréquemment d'avoir du changement et de tester. Mais comme on disait, les deux grandes classiques, donc au nord du Pays Basque, on a les cerises noires, et au sud, on est plus sur la crème pâtissière.
Et puis, est-ce que les gens qui viennent chez vous connaissent bien la cuisine du Pays Basque, ou est-ce que est-ce qu'ils sont surpris quand ils viennent manger chez ces deux frères?
Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits avec notre personnel qui est français. Où on a même du Pays Basque, donc ils ont leur propre dialecte, c'est ni des Français ni des Espagnols, ça vous les entendrez toujours batailler là-dessus, mais du coup il y a beaucoup d'échanges avec le client, et non, ils aiment découvrir d'autres choses. Mais après, vous avez, comme j'ai dit, une grande population hispanique qui connaît le Pays Basque, qui connaît ses origines, et qui viennent pour ça, pour retrouver ses délices.
Et puis plus tôt, vous me disiez que vous préparez quelque chose pour l'an prochain, un autre restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
On va pas tout dire, ça va rester du très classique, mais très bien fait, voilà. Donc, Train Bleu est un de nos restaurants préférés avec Vincent, qui est très historique en France, qui est dans une gare, qui est magnifique. Pour nous, c'est même un musée, tellement il est beau. On n'a jamais la prétention de recréer quelque chose comme ça, mais pour recréer peut-être une expérience très similaire avec ou un service au guéridon, qui serait un service sur un chariot, où on ferait beaucoup de shows et de présentations devant le client. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant.
Puis vous savez dans quel coin de Sydney déjà, est-ce que vous voulez le révéler ou non?
Oui, ça sera pour Double Bay.
Donc, dans quelle partie de 2025 on peut s'attendre à ça?
On va planifier pour mi-2025. Mais bon, vous savez, avec les constructions, tout ce genre de choses, on donne jamais de date précise. Mais suivez-nous sur les réseaux et vous aurez les informations partagées en temps et en heure.
Parfait. Merci beaucoup, Johan et Vincent.
Merci, Audrey.
Merci, Audrey. Bonne journée à vous.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
C'était Catherine Ringer qui nous interprétait sa chanson Love Me Please. On doit prendre une autre pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, on retrouve Louise Blackwell, normalement basée à Adélaïde, qui est actuellement à Melbourne pour des concerts spéciaux jazz à l'occasion de la Bastille Day.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
On a le plaisir à nouveau de retrouver Louise Blackwell. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Louise, vous venez cette fois-ci à Melbourne. Vous ne serez pas basée à Adélaïde. Vous venez à Melbourne pour fêter le 14 juillet avec un groupe de musiciens de jazz.
Oui, c'est ça. On va jouer à Jazz Lab le dimanche. Mm-hmm. Mais c'est avec grand plaisir qu'on vient. Et on va faire un set de nos morceaux. Les musiciens sont super. Mark Simeon Ferguson, c'est souvent le directeur musical. Hier soir, je l'ai vu à Adelaide Cabaret Festival. Il était directeur musical pour Johanna Allen, une grande chanteuse d'opéra, de comédie musicale, qui habite à Melbourne, en fait, mais qui est d'origine d'Adelaide. Et lui, il a toujours été le pianiste du groupe. Et avec lui, il y aura Julien Ferraretto, le violoniste de jazz nickel. Et il y a aussi, il joue de la trombone. Et puis aussi Thomas Polford, il joue à la clarinette et il fait du saxo aussi. Et puis, il y a deux musiciens d'origine d'Adelaide qui habitent actuellement à Melbourne. Et ça, c'est Kiri Anderson, qui est une batteur de jazz, qui fait beaucoup de concerts à Jazz Lab, effectivement.
Oui.
Et puis, il y a aussi Dylan Paul qui joue à la contrebasse.
Un week-end très chargé. Est-ce qu'on peut parler du répertoire que vous allez présenter cette fois-ci?
Oui, alors c'est surtout pour le concert à Jazz Lab le dimanche soir. On aura 6 personnes pour Jazz Lab, effectivement. Mais il y a plein de morceaux super. Il y aura Paname de Léo Ferré, Coin de rue de Charles Trenet, Chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, Le bateau de pêche de Paul Mizrahi et André Ornez. C'est une ancienne chanson magnifique qui était, qui était super à l'époque. La bicyclette, chantée par Yves Montand. Le poinçonneur de Lila de Serge Gainsbourg. Ce matin-là de Barbara. Les perroquets du Périgord, qui est une chanson de Thibaut Defevert, qui vient du groupe Presque Oui. Donc ça, c'est plus récent.
Oui.
Et Ça va le diable de Jacques Brel. On a fait le cabaret L'avant de l'Espagne sur l'histoire de Juliette Gréco et l'origine du club Tabou. C'est elle qui avait découvert cette boîte souterraine avec Anne-Marie Casalis et Marc Donitz. Et donc il y aura quelques morceaux de ce spectacle aussi, tout arrangé par Mark Simeon Ferguson. Donc alors, Ça va le diable, un autre grand numéro qu'avait fait Juliette Gréco, c'est Je hais les dimanches, écrit par Charles Aznavour. Mon manège à moi, écrit par Jean Constantin. Couleur café, la javanaise de Serge Gainsbourg. Peut-être bien avec le temps, la belle ballade de Léo Ferré. Peut-être bien le temps de l'amour, vu que Françoise Hardy vient de nous quitter. Oui, plein de beaux morceaux. Sur les quais du Vieux-Paris, c'est une très, très belle balade qu'avait fait Juliette Gréco, aussi que d'autres, c'était dans les années 30. Comment s'appelle-t-elle? J'essaie de me rappeler. Jean Sablon l'avait fait. Lucienne Delisle. L'avait fait. Oui. Donc, de vraiment de beaux morceaux, de belles chansons. Oui, plein de... Moi, j'ai toujours fait de la recherche pour chercher les belles chansons. J'ai des amis à Paris, parfois, qui m'envoient un morceau... Et voilà, avec des musiciens vraiment bien, on s'y attend avec impatience.
Louise, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas présenté sur les ondes de Radio SBS. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, rappelez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Vous avez vécu à Paris où vous avez étudié le jazz à l'époque. Parlez-nous de tout ça.
Oui, alors oui, ça fait un moment maintenant. Et c'est avec plaisir que je retourne à Paris cet octobre. Ce sera bien, mais oui, je suis allée faire les études à la fac, d'abord à Lyon. J'ai fait la littérature française et un peu de traduction. Et puis, je suis montée à Paris et je suis allée à la fac, faculté Saint-Denis, à Paris 8, à Saint-Denis, et j'ai étudié les études, j'ai fait des études du cinéma. Oui. Et puis, petit à petit, parce que j'avais fait de la musique celtique, et j'ai chanté dans des bars irlandais à Paris. Et puis, je voulais vraiment faire des études de jazz. Et donc, il y a Sarah Lazarus, une grande chanteuse américaine, qui habite à Paris depuis longtemps maintenant. Elle est bien entourée, on l'adore. Et donc, c'était une très bonne prof de jazz vocal. Et aussi Michelle Hendricks, la fille de John Hendricks. C'est deux grandes chanteuses sur la scène jazz de Paris. Alors, j'avais le grand plaisir de faire des études avec ces deux femmes. Et puis, j'ai commencé à chanter dans la scène. J'ai joué avec un pianiste bordelais, d'origine Bordeaux, en tout cas, Vincent Bourgeix. Et Gilda Boclet, un contrebassiste, plein de musiciens. Pierre Christophe, un super pianiste qui joue sur Paris et qui joue en Europe. Parfois, ils vont à New York. Plein de beaux musiciens. Oui, c'était vraiment une belle époque pour moi.
Louise, quel est le message que vous auriez pour le public francophone, francophile qui nous écoute, pour les encourager à venir vous voir le samedi 13 juillet au Queen Victoria Market et ensuite au Jazz Lab le soir du 14 juillet, le dimanche?
Oui, c'est que c'est avec un grand cœur qu'on vient. Les musiciens sont vraiment super. C'est bon, je suis pas française, mais j'ai un truc dans mon cœur qui est vraiment français, et donc j'essaie de faire de très belles présentations de ces morceaux, jouer avec un grand panache de ces musiciens. Jazz Lab, c'est une boîte de jazz à Brunswick, et c'est une très belle salle, et aussi plein d'activités sur Queen Victoria Market pendant tout le week-end. Il y aura plein de choses à faire. Donc, oui, pour avoir une touche...
à la française.
Oui, voilà. Venez nous joindre.
Louise, toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio SBS. Merci.
Merci beaucoup, Jean. Merci.
Comme doucement tu te couches, en murmurant ces dimanches, si nous allions mieux que nous, sous le ciel de nos jours, mille projets nous attirent, mais dans un même sourire. Thank you.
c'est tout pour cette édition du dimanche 14 juillet. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS Audio, c'est mardi, même heure. Bon après-midi, bonne fin de week-end et à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.